Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Voilà, première d'une série, l'Europe en question, où nous parcourons quelques villes d'Europe, Athènes, Madrid, Bruxelles. Nous sommes à Rome aujourd'hui pour l'anniversaire, hein, quasiment jour pour jour, à deux jours près, de Matteo Renzi, arrivant ici au pouvoir en Italie, celui que l'on a nommé le démolisseur, le rotomatore, qui a promis une réforme par mois. A-t-il tenu ses promesses? Il est arrivé au pouvoir ici en Italie alors qu'il avait 39 ans et qu'il vient d'en avoir 40 depuis le 11 janvier. Le président du Conseil fait couler beaucoup d'encre. Certains disent, comme certains observateurs français, Philippe Ridé sur son blog, que Renzi a moins changé l'Italie et que la gauche. D'autres disent qu'il a promis beaucoup de réformes mais que peu encore sont réellement en route ou promettent de redresser le pays. Nous ferons le bilan économique, politique, sociale de Matteo Renzi dans quelques instants avec nos invités que je présente d'ailleurs. Buongiorno a tutti, Raffaele Simone.
Bonjour.
Hein, linguiste, philosophe, professeur de linguistique à l'université Rome 3, auteur notamment, vous avez reçu bien sûr dans les matins de France Culture pour en parler, du fameux monstre doux, l'Occident vire-t-il à droite chez Gallimard. Je vois que dans la livraison de novembre-décembre 2014 du débat, votre pessimisme va croissant, monsieur Cassandre, Simone et Raffaele. Comment la démocratie fait faillite, écrivez-vous dans le dernier numéro du débat. Je vous vois sourire, ce qui promet tout de même que nous verrons le chaos arriver avec un peu de douceur, hein, qui sait. Nous sommes aussi en compagnie de Jacopo Zanchini, bonjour.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de l'hebdomadaire italien Internazionale. Et puis nous sommes aussi également avec Giovanni Orsina, historien, politologue, éditorialiste pour le quotidien La Stampa. Et vous allez d'ailleurs vous bientôt publier en France, aux belles lettres, oui, un livre sur qui déjà?
Sur qui? Berlusconi.
Qui c'est? Ah, Berlusconi. Si, on en parle tout de même encore, même si Matteo Renzi a eu sa peau pour la présidence. Mais peut-être avant tout de même de faire ce bilan économique, social, politique de Matteo Renzi, ce jeune homme qui promet de réformer l'Italie, plus grave peut-être pour commencer, et très sérieusement, c'est la une de nombreux journaux italiens, non pas l'état de siège dans lequel se trouvait Rome hier, quand nous sommes arrivés, les hooligans hollandais semant la panique jusqu'à la Piazza d'Espagne, interdite et aux Romains et aux touristes que nous étions, forces hélicoptères tournées au-dessus de la ville, tout cela pour que le match se solde malgré tout par un 1-1. Vous l'avez regardé le match, en bon intellectuel italien que vous êtes, vous avez dû regarder le match quand même, non, Raffaele Simone?
Moi pas, personnellement.
Bon, alors vous n'êtes pas un vrai intellectuel italien. Jacopo Zanchini?
J'ai pas eu le temps.
Ah ben, décidément. Et Giovanni Orsi?
Je l'ai vu, malheureusement.
Ah, quand même, enfin.
Malheureusement, alors, je l'ai vu. Parce que...
La ville en état de siège, tout de même, qui repose toutes les questions, hein, sur le football, sur les supporters, la sécurité. C'était quand même assez impressionnant ici. Mais enfin, état de siège, on en parle aussi pour évoquer la situation italienne face à la Libye. Un chiffre, évidemment, celui des kilomètres qui séparent la Libye de l'Italie, c'est rien, 350 kilomètres. Et ainsi, la branche islamique de la Libye, Daesh, qui promet un afflux massif, comme une sorte de menace, hein, de forte immigration libyenne ici en Italie, et une réponse italienne. De quel ordre et comment voyez-vous la situation évoluer? Est-ce qu'il faut une réponse sécuritaire? Et qu'est-ce que le gouvernement promet de faire face à ce qu'on appelle la menace islamique de Daesh de la Libye? Faut-il le rappeler, l'ancienne colonie italienne sur l'Italie? Jacopo Zanchini?
Je crois qu'il y a aussi beaucoup de propagande et d'exagération dans toute l'histoire, hein, du rapport avec la Libye, c'est-à-dire que l'immigration de la Libye, il y a toujours eu depuis des années. Et donc, effectivement, on peut utiliser l'immigration comme une arme, si on veut, par rapport à l'Italie, à partir de la Libye. Mais bon, ça existe déjà et ce n'est pas nouveau. Daesh ou État islamique, ce n'est pas non plus, il n'y a pas non plus les contrôles de la Libye. Dans la Libye, il y a une situation de chaos dans laquelle il y a trois ou quatre acteurs majeurs, et l'État islamique n'est pas un des acteurs majeurs. Donc, l'option, ce qu'il faudrait...
Vous y voyez du bluff ?
Non, oui, j'y vois de la propagande de l'État islamique, qui est effectivement, il a débarqué en Libye, mais qui n'a pas une vraie puissance. La vraie nouveauté, c'est qu'il est là, qu'il faut faire quelque chose de très fort pour les déloger, mais en même temps, la côté militaire ne sert pas. Il faut beaucoup de politique, il faut beaucoup de diplomatie, il faut beaucoup de... Il faut tout ce qu'il n'y a pas eu après l'intervention franco-britannique de 2011. Il n'y a pas eu de la politique, il n'y a pas eu de la capacité de mener la Libye à une transition démocratique ou bien à une transition de stabilité. Et là, on a perdu la Libye, on l'a laissé aller dans le chaos, on l'a laissé aller dans le clan qui s'entretue. Et ça a été une erreur incroyable de la part de l'Italie et de l'Europe en général.
Alors, bluff ou pas bluff, tout de même, hein, le ministre de la Défense italienne a annoncé qu'il était prêt à mobiliser 5000 soldats pour lutter contre Daesh en Libye. Giovanni Orsini.
Bon, je pense qu'il y a un problème, comme on peut dire, psychologique, parce que les Italiens sont préoccupés par cette situation et ils sont préoccupés par la possibilité qu'il y a une nouvelle vague de migrants et avec des terroristes parmi eux. Si cette préoccupation est fondée ou non, ça c'est... oui, ça c'est important, mais seulement jusqu'à un point, parce qu'il y a une perception de la part des Italiens qui est une perception de préoccupation. Et je pense que ça c'est une des raisons pourquoi le gouvernement italien a essayé de donner des réponses fortes à cette situation. Mais je pense que Renzi se n'est pas débrouillé pas mal jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il a été très prudent, et il a dit plusieurs fois que l'Italie peut faire des choses, mais seulement avec les Nations Unies. Et je pense que ça... Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe dans la Libye, et je pense que cette prudence, c'était une décision prudente et sage.
Sur cette question de migrants et d'afflux de réfugiés libyens ici en Italie, écoutez Fabrice Leggeri, qui est le directeur opérationnel de Frontex, joint au téléphone par Stéphane Robert. Il explique, Fabrice Leggeri, qu'on a comptabilisé en 2014 170 000 migrants qui se sont rendus ou qui ont tenté de se rendre sur les côtes italiennes, la plupart en provenance de Libye. Et pour l'année 2015, il faut s'attendre à un chiffre plus important. Fabrice Leggeri.
L'année 2015 sera probablement la pire en termes de nombre d'arrivées d'étrangers en situation irrégulière et notamment par la mer dans des conditions aussi dramatiques que celles que nous connaissons. Il y a des explications géopolitiques pour expliquer ça. La situation naturellement de la Libye, on peut considérer que c'est un État failli. Il n'y a aucune autorité en Libye qui a un contrôle effectif sur le territoire ou sur une partie du territoire. Et par conséquent, personne ne peut empêcher les trafiquants d'organiser ces départs en direction de l'Italie. Quant à savoir si nous avons des moyens suffisants, l'agence Frontex a lancé un appel aux États membres de l'Union européenne pour qu'ils continuent à mettre à disposition des moyens comme des avions, des bateaux et des gardes-frontières au printemps et en été 2015. Donc actuellement, on est en train de faire le planning des moyens qui seront disponibles au printemps et à l'été, parce que nous nous attendons malheureusement à une augmentation encore de ces flux, puisque généralement les flux diminuent en hiver. Or, nous n'avons pas assisté à une diminution des flux en hiver au moment des tempêtes. Et malheureusement, nous savons qu'il y a encore probablement plusieurs centaines de milliers de personnes qui attendent en Libye et que les passeurs voudront probablement faire passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois.
Voilà Fabrice Leggeri au micro de Stéphane Robert. Raphaël et Simone, quelles conséquences pensez-vous que cela peut avoir politiquement? On sait comment dans les pays en crise, la question de l'immigration peut être instrumentalisée d'une manière ou d'une autre. Quelle est votre analyse sur cette question-là?
Mon opinion, c'est que l'immigration, c'est un sujet majeur de l'incertitude des démocraties en Europe en ce moment et en Italie tout particulièrement. L'Italie est la porte, pour des raisons géographiques et géopolitiques, de l'Europe par rapport à l'Afrique. Et c'est à travers l'Italie que passent ces flux de migrants une partie importante de quelles sont pas seulement clandestins, mais aussi peut-être très proches de la délinquance ou du terrorisme, ça c'est évident. La réponse italienne a été d'un côté, à mon avis, excessivement généreuse. Il y a énormément de polémiques en Italie sur ce sujet en particulier, mais disons que finalement la réponse a été généreuse, les gens passent tranquillement, les gens...
Quand vous dites ça, Raphaël Simone, vous voulez dire qu'elle a été trop généreuse ?
Trop généreuse, bien sûr. Et on a découvert pas mal de problèmes là, à partir des mafias qui gèrent les camps de recueil dans les îles, les trafiquants qui aident les immigrants à passer en Allemagne, etc. Il y a énormément d'aspects qui ont été, à mon avis, négligés. En plus, comme une partie de cette immigration est perçue comme une menace par rapport aux travailleurs italiens, la réponse, normalement, est une réponse aux droites. Le succès que la Ligue est en train d'avoir dans cette période répond surtout à cet aspect. C'est la réponse populaire au manque de politique vis-à-vis de l'immigration. Et en ce moment, par rapport au problème libyque en particulier, on verra ce qu'ils peuvent et savent. Et ça a peur, mais je suis très, très douteux.
Jacopo Zanchini ?
Oui, je ne partage pas vraiment sur ce sujet l'avis de Raffaele Simone, parce que la majorité de migrants qui arrivent sur les côtes italiennes, c'est des Syriens. C'est surtout des Syriens ou des gens qui viennent des pays en guerre de l'Afrique centrale. Donc ce n'est pas des gens proches de la délinquance ou du terrorisme, c'est plutôt des désespérés qui cherchent en Europe un point pour survivre. Et surtout, c'est pour la plupart des gens qui ne veulent pas rester en Italie, mais aller dans d'autres pays d'Europe. C'est pas l'Italie, je ne sais pas, je crois pas qu'elle était trop généreuse. Par contre, elle a été là où c'est l'Europe qui a été assez généreuse et qui a pas assez aidé l'Italie à aider ces gens. Mais je trouve qu'on a fait vraiment le minimum en termes d'accueil. On a fait beaucoup en termes de sauvetage avec Mare Nostrum, mais les centres d'accueil en Italie étaient des endroits horribles, souvent.
Giovanni Orsina.
Nous avons commencé avec les hooligans du Feyenoord. C'est la même chose. Il y a, je pense, une perception de la part des Italiens que l'État italien n'a pas vraiment le contrôle du pays. Et ça, c'est, je pense, je ne dirais pas générosité ou pas de générosité. Je dirais que le problème, c'est un problème d'organisation et de contrôle des migrants. Il y a une perception des Italiens que l'État italien ne contrôle pas les migrants et ne contrôle pas le potentiel terroriste qui peut être parmi eux.
Alors nous, vous voulez rajouter quelque chose,
aussi,
Jacopo Zanchini, nous allons passer à...
Il faudrait réfléchir à partir de cas de Charlie Hebdo et les cas de Copenhague, il faudrait comprendre que souvent le terrorisme, ça vient de l'intérieur, ça veut dire que c'est de citoyens qui ont grandi dans des sociétés occidentales, qui se radicalisent. On a jamais eu jusqu'à maintenant des cas de terroristes en Europe qui venaient de l'immigration ou très récemment immigrés. Donc là aussi,
c'est ce que semble craindre Raphaël.
Là aussi, il y a beaucoup de propagande sur ça.
Bon, vous voulez dire un tout petit mot, Raphaël? Mais ça, c'est qu'on attaque le volet Renzi.
Je ne veux pas créer des polémiques, mais ça, c'est la typique réponse buoniste, c'est-à-dire générosité.
Traduisez-moi là, parce que je sens que c'est dur à votre endroit.
Tout le monde est bon et donc
tout le monde est gentil.
Tout le monde est gentil et donc laissez les arriver.
Bon, mais tout le monde est bon, tout le monde est gentil, comme Matteo Renzi, Raphaël et Simone. Et quel bilan tirer des un an de Matteo Renzi à la présidence du Conseil? Nous avons demandé son sentiment et son analyse à quelqu'un qui compte aussi ici en Italie, Ilvo Diamanti, sociologue, politologue, journaliste. Il écrit notamment régulièrement dans La Repubblica, par ailleurs professeur de sciences politiques à Urbino. Et voici comment il décrit la méthode Renzi, Ilvo Diamanti, au micro d'Antoine Beauchamp.
L'Italie, c'est le pays de l'éternel présent. Et Renzi, il a appris cette leçon de ceux qui l'ont précédé. Renzi, c'est très habile à éternaliser le présent. Il est très rapide. Il court toujours. Peut-être qu'on reste exactement dans la même place. Mais c'est difficile s'apercevoir de ça. Il nous donne de plus en plus des buts, des perspectives, des projets. Il a ouvert beaucoup de projets. On a parlé quelquefois d'un magicien qui nous montre chaque fois quelque chose d'autre et on se distrait. Il a déjà trouvé quelque chose de nouveau. L'avantage par rapport à ceux qui l'ont précédé, c'est qu'au moins il y a un leader, quelqu'un auquel faire référence. Et il y avait la nostalgie d'un Berlusconi différent. Il est post-berlusconien. Comme Berlusconi, il est très habile à communiquer, comme Berlusconi. Il est très capable d'utiliser les médias. Il est jeune. Il tweet avant de parler.
Ah, il tweet avant de parler. Voilà le constat, le portrait. Vous êtes d'accord avec ça?
J'ai dit qu'il ne parle pas, il tweet seulement.
Ah, il tweet seulement. Alors ensuite,
effectivement, il parle beaucoup aussi.
On dit beaucoup qu'il a fait une révolution et qu'au fond, il est passé à une personnalisation de la vie politique, prenant la place même du parti. Écoutez toujours sur cette question, hein, quelles sont aujourd'hui les forces du Parti démocrate ou bien du Parti démocrate de Renzi, hein, comme l'a rebaptisé Ilvo Diamanti. Écoutez-le au micro d'Antoine Beauchamp.
J'ai baptisé le Parti démocrate PDR. C'est le Parti démocrate de Renzi ou bien le Parti di Renzi. C'est-à-dire, il y a ceux qui votent Parti démocrate malgré Renzi et ceux qui votent Renzi malgré le Parti démocrate. Est-il un parti de gauche? Est-il encore un parti de gauche? Non. Il couvre l'ère de gauche de la politique italienne, mais il est exactement adressé au centre. Et ça, c'est ce qu'il faut pour gagner en Italie. Voilà. Aujourd'hui, il y a seulement le Parti démocrate. C'est le seul parti de gouvernement. C'est sa force.
Voilà, et nous verrons évidemment quels sont ceux qui sont éventuellement en face. Ilvo Diamanti au micro d'Antoine Beauchamp. Alors, réforme du marché du travail, adoptée, mais décret en attente. C'est le fameux Jobs Act ou flexi-sécurité à l'italienne. Réforme institutionnelle plus ou moins en cours de route, comme par exemple le blocage entre guillemets du Sénat. La réforme fiscale, le budget 2015 a été adopté le 23 décembre. Quant aux réformes sociales, elles sont, paraît-il, encore un peu en attente. Quel bilan en tirez-vous? Pour que nos invités vous répondent ensuite, Brice Couturier, bonjour à vous.
Bonjour Marc et bonjour à l'Italie. Oui, effectivement, je vais essayer de vous dresser une espèce de bilan des réformes. On disait à l'instant, Ilvo Diamanti disait, il a ouvert beaucoup de projets, mais la réalité, c'est combien de réformes ont été réellement mises en œuvre. Ben, ça va être un petit peu le sujet de ma chronique tout à l'heure après 8h et j'aimerais bien que vos invités nous disent ce qu'ils en pensent de leur côté.